qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire.
Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir à 20h45 sur France 3, l'ombre d'un doute nous fera visiter les châteaux de la Loire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je serai pour ma part au château de Chambord pour vous présenter cette soirée spéciale consacrée aux dames de la Loire. Entendez Anne de Bretagne, Louise de Savoie, Catherine, mais aussi Marie de Médicis et Diane de Poitiers, bien sûr. Un prétexte en vérité pour redécouvrir toutes ces merveilles de tuffeau et d'ardoise qui illuminent le Val de Loire.
L'année dernière, on a célébré le 50e anniversaire de la mort du pape Jean XXIII. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur la trajectoire de ce grand personnage du dernier siècle.
Alors oui, je vous parle d'autant plus volontiers d'Angelo Roncalli, devenu le pape Jean XXIII, récemment canonisé, que j'ai été passionné par le témoignage d'Alexandre Adler. Son livre parle des liens durant la Seconde Guerre mondiale entre la grand-mère de l'auteur et celui qui devait un jour monter sur le trône de Saint-Pierre. Et pour nous en parler, Alexandre est avec nous dans ce studio.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Maya sur la page Facebook de l'émission. Maya aimerait connaître l'origine de l'expression « se mettre sur son 31 ».
Allons bon, j'ai encore trois quarts d'heure pour affûter ma réponse. Pour le moment, je vous propose de faire mieux connaissance avec le nom Roncalli.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Un peu plus d'un mois, le 27 avril dernier, le pape François et son devancier Benoît XVI ont présidé ensemble la double canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Il faut donc désormais parler de Saint Jean XXIII. Celui qu'on appellera le pape du peuple avait été élu au Saint-Siège en octobre 1958 pour prendre la succession de Pie XII. Il devait mourir d'un cancer moins de 5 ans plus tard, le 3 juin 1963, le lundi de la Pentecôte. Les cardinaux qui l'avaient élu voyaient en lui sans aucun doute un pape de transition. C'est souvent comme ça, vous savez, on croit élire un pape de transition et il se révèle une figure essentielle. En l'occurrence, c'est lui qui a lancé la plus grande révolution de l'Église contemporaine, le célèbre Concile Vatican II dont nous avons parlé il y a 2 ans à l'occasion du cinquantenaire de ce concile. Jean XXIII aura régné peu de temps, mais ça a été un pape très important, très populaire aussi. Il était du reste surnommé le bon pape. Angelo Roncalli s'est fait aimer par sa chaleur humaine, par sa simplicité. Et tout au long de sa vie, il a raconté son cheminement. Il a pris des notes dans un journal auquel très tôt il a donné le titre de « Journal de l'âme ». Un journal de l'âme rédigé à la plume le soir à la lueur vacillante d'une lampe à huile, écrit sur des cahiers fascicules qu'il transportait partout avec lui. Il faut saluer la fraîcheur, la spontanéité des propos tenus dans ces cahiers. Donc, le pape Pie XII meurt le 9 octobre 1958. Le conclave est aussitôt organisé. Il est ouvert le 25 octobre. 50 cardinaux viennent au Vatican donc pour élire le nouveau pape. Certains sont absents, enfin comme à chaque fois. Il y a toute évidemment, c'est toute la période où la presse spécialisée se demande qui sera le nouveau pape. Il y a un certain nombre de papabiles, bien entendu. Parmi les papes potentiels circule le nom du cardinal Roncalli. Ezio Boris dit des figures prestigieuses et des pasteurs de diocèses importants comme Dalla Costa, l'évêque de Florence, Fossati de Turin, Spellman de New York, Feltin de Paris et de nombreux autres sont les soutiens de ce cardinal. Au troisième jour du conclave, le 28 octobre 1958, on est là après 11 scrutins. Les cardinaux vont désigner Monseigneur Roncalli comme pape. Il est 17h à ce moment-là. Monseigneur Angelo Roncalli est âgé de presque 77 ans. C'est pour ça qu'on avait l'intention, évidemment, d'élire un pape de transition. Il va choisir son nom, ce nouveau pape, il va s'appeler Jean XXIII, ce qui surprend tout le monde car aucun pape n'avait plus porté le nom de Jean depuis le XVe siècle. Jean XXIII, engagé avec un respect religieux dans le sillage de Pie XII, se consacre au service de l'humanité avec une espèce d'inventivité extraordinaire. Il veut montrer que pape, ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. Il est, lui, un homme de chair, c'est un pape âgé qui peut rajeunir l'Église, il en est convaincu. D'ailleurs, Paul VI suivra son exemple. C'est un pape, nous allons y revenir tout à l'heure avec Alexandre Adler, un pape venu de la campagne qui peut faire retrouver aux catholiques la route de leur salut. C'est en tout cas comme ça qu'il conçoit son nouveau magistère. Alors, il est 18h05. Ce 28 octobre 1958, lorsqu'apparaît la fameuse fumée blanche, vous savez, le cardinal Canali annonce depuis la basilique Saint-Pierre le fameux « Habemus Papam », nous avons un pape, et le voilà qui arrive, ce nouveau pape Jean XXIII, sous les applaudissements de la foule. Comment est-ce qu'il a lui-même vécu cette journée du 28 octobre 1958? Eh bien, pour le savoir, il faut aller chercher dans son fameux journal. Au 11e scrutin, dit-il, me voilà élu pape. Ô Jésus, moi aussi, je dirai avec Pie XII quand il fut élu, miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, dans ta grande miséricorde, prends pitié de moi, Seigneur. On se croirait dans un rêve, ajoute le nouveau pape, et c'est cependant, avant de mourir, la réalité la plus solennelle de toute ma vie. Me voici, Seigneur, je suis prêt, ad convivendum et ad commemoriandum, à vivre et à mourir avec toi. Depuis le balcon de Saint-Pierre, environ 300 000 personnes m'applaudissaient, écrit-il. Les projecteurs m'empêchaient de voir autre chose qu'une masse amorphe, agitée. Et il écrit le lendemain, depuis hier soir, je me fais appeler Jean. J'ai passé la nuit dans l'appartement du secrétaire d'État, somnolent plutôt que dormant. Sainte messe, seule dans la chapelle voisine, dont Loris et frère Bellotti de Trescore et m'assistaient. Le monde entier aujourd'hui ne parle que de moi, n'écrit que sur moi, mon nom et ma personne. C'est sans doute toujours pour tous les élus sur le trône de Saint-Pierre, c'est une énorme contrainte, vous imaginez, c'est une épreuve extraordinaire. Il faut assumer ce nouveau rôle désormais pour ce paysan, je vous le disais, d'origine issue d'une famille de 13 enfants. Il était le troisième enfant, l'aîné d'ailleurs. Alors je ne vais pas vous parler, je n'aurai pas le temps là de vous parler aujourd'hui de son père et de sa mère. Un mot peut-être de son grand-oncle, Xaverio, qui était aussi son parrain et qui jouait un rôle important. Un homme qui ne dépassa pas les première classe de l'école élémentaire, dira de lui Jean XXIII, mais qui connaissait la loi de Dieu. Il se sent appelé, ce jeune homme. À 11 ans, il se prépare déjà à la prêtrise. Il entre au séminaire de Bergame. Il est admis dans l'ordre franciscain séculier en 1896 et au tout début du siècle, de 1901 à 1905, il va étudier au séminaire pontifical romain, autant dire qu'il est déjà d'une certaine manière dans le sérail. Il est ordonné prêtre à 23 ans, à l'église Santa Maria in Monte Santo, qui est située sur la Piazza del Popolo, à Rome, et il sera secrétaire de Monseigneur Giacomo Maria Radini Tedeschi à partir de 1905. Cet homme-là est l'évêque de Bergame, il va jouer un rôle essentiel dans le reste de sa carrière.
Sur Europe 1 avec un extrait de la messe du couronnement. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du pape Jean XXIII.
Franck Ferrand 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du pape Jean XXIII.
C'est auprès de l'évêque de Bergame, Radini Tedeschi, que Roncalli va faire son apprentissage d'une certaine manière. Il apprend à comprendre et à connaître l'Église. Il va se tourner vers la diplomatie au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1925, le voilà envoyé en Bulgarie par le pape Pie XI. Il est dans un premier temps visiteur, puis bientôt délégué apostolique. La Bulgarie est à l'époque un pays totalement dominé par la religion orthodoxe. C'est à ce moment-là, c'est lors de son séjour en Bulgarie, qu'Angelo Roncalli va prendre pour devise épiscopale « Obedienta et Pax », qui deviendra, qui restera sa devise toute sa vie, autant dire « obéissance et paix ». C'est lui qui va arranger le mariage du roi Boris III, enfin du tsar de Bulgarie, si vous voulez, qui est orthodoxe, avec la princesse italienne Jeanne de Savoie, qui est bien sûr est catholique. Elle est la fille de Victor Emmanuel III d'Italie. C'est très complexe cette affaire et il va faire preuve, dans une circonstance pourtant délicate, il va faire preuve d'une diplomatie tout à fait remarquable. Et puis, en 1935, voilà Monseigneur Roncalli nommé délégué apostolique en Turquie et en Grèce. On est là à la veille de la Seconde Guerre mondiale et on est déjà à l'époque de la persécution des Juifs en Allemagne et d'une manière générale dans les satellites du Reich allemand. C'est là que Roncalli va donner toute sa dimension et c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure avec Alexandre Adler, puisque il se trouve que parmi ceux qui ont aidé Monseigneur Roncalli, parmi ceux qui ont travaillé avec lui au sauvetage de tous ces Juifs, il y avait la grand-mère d'Alexandre Adler, Maria Bauer. Donc il nous racontera cela, Alexandre, dans un instant. Après cette Seconde Guerre mondiale, en décembre 1944, il est nommé par le pape Pie XII nonce apostolique en France. Il va donc représenter le Vatican dans l'Hexagone à l'époque du gouvernement provisoire de la République française, à l'époque du général de Gaulle. Il va aider les prisonniers de guerre, notamment à se réinsérer, à retrouver une vraie place dans la société. Il règle les conflits entre les évêques et le régime de Vichy. Il ne faut pas oublier qu'évidemment, il y a eu pour le clergé français des questions très douloureuses pendant cette Seconde Guerre mondiale. Le nonce apostolique est là pour mettre du baume sur les plaies, si je puis dire. C'est un homme souriant, affable, très diplomate. Il est ouvert au monde moderne. On le voit notamment visiter des studios de cinéma lorsque Pierre Fresnay interprète le personnage de Saint-Vincent de Paul dans Monsieur Paul en 1947. Le président Vincent Auriol va appeler Monseigneur Roncalli, le nonce apostolique, il l'appelle le doux rebelle. Il quittera la France en 1953 pour devenir un des grands prélats de l'Église catholique. Il est patriarche de Venise, reconnu à ce moment-là pour sa bonté, pour sa disponibilité, pour la grande délicatesse dont il fait constamment preuve. Voilà ce qu'il écrit toujours dans le même journal. « Je laisse à d'autres les excès de la finesse et de la prétendue habileté diplomatique et je continue de me contenter de ma bonhomie et de ma simplicité de pensée, de parole et de comportement. En somme, les choses tournent toujours à l'avantage de celui qui reste fidèle à la doctrine et aux exemples du Seigneur. À 72 ans, il est nommé cardinal. On pourrait penser à l'époque que c'est, si j'ose employer cette expression, son bâton de maréchal, que c'est le couronnement de sa carrière, qu'il n'ira pas plus loin. Nous savons, nous, qu'il n'en est rien, bien entendu. Je vous livre un nouvel extrait du journal de l'âme. « Depuis que le Seigneur m'a voulu, si misérable que je sois à ce grand service, je ne me sens plus appartenir à quelque chose de particulier dans la vie, famille, patrie terrestre, nation, orientation particulière en matière d'études, de projets, si bon soit-il. Maintenant, plus que jamais, je ne me reconnais qu'indigné, humble, serviteur de Dieu et serviteur des serviteurs de Dieu, le monde entier et ma famille. Ce sentiment que j'appartiens à tout le monde doit tonifier et vivifier mon esprit, mon cœur. » Mes actions, autant dire qu'il était parfaitement mûr pour devenir pape, ce cardinal archevêque de Venise. Il est un pape que l'on a cru être un pape de transition et vous avez vu qu'il n'en était rien du tout. C'est Daniel Robbs qui le dit, de toutes ces initiatives, la plus importante et aussi la plus étonnante fut celle qu'il annonça le 25 janvier 1959 dans le monastère qui jouxte Saint-Paul hors les murs à 18 cardinaux fort étonnés. Quelle est-elle cette décision? Eh bien, elle est de réunir un concile, c'est-à-dire une espèce d'immense assemblée de tous les évêques, un concile œcuménique qui va s'appeler Vatican II. Le précédent concile avait été suspendu en 1870. Alors, Que veut Jean XXIII en convoquant ainsi les évêques et en leur donnant cette mission de réformer l'Église? Il veut une sorte de grand coup de balai, un aggiornamento, une remise en ordre générale de l'Église. Pas forcément et pas uniquement dans un sens de modernisation, comme on l'a cru. Rappelez-vous ces émissions que nous avions faites sur le Concile Vatican II il y a 2 ans. Son but, en tout cas, c'est de remettre de l'ordre d'une certaine manière. Le lancement du Concile a lieu le 11 octobre 1962. Ça a été un moment extraordinaire. Et les évêques se mettent à travailler. On était loin d'imaginer, à mon avis, en 1962, jusqu'où irait leur conclusion.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Angelo Roncalli, devenu le pape Jean XXIII.
La personnalité du pape Jean XXIII a marqué son pontificat au moins autant que les très grandes réformes dont il a été le cadre, et notamment cette réforme, ce lancement du Concile Vatican II, qu'il appartiendra ensuite au pape Paul VI de mener à son terme. La vérité, nous dit Daniel Robs, est que Angelo Roncalli était une intelligence exceptionnelle, d'une lucidité sans faille sur les événements et les êtres, qui jamais n'était dupe des faux-semblants et des petites ruses du monde, ce qui ne l'empêchait pas de garder au cœur une inépuisable générosité, tout le contraire exact d'un Talleyrand ou d'un Machiavel, nous dit-il. Jean XXIII a voulu déjà, dans les décisions qui lui appartenaient en propre, simplifier le protocole pontifical. Notamment, il interdit les acclamations lors de son entrée dans la basilique, il met de côté la seda gestatoria, vous savez, cette espèce d'énorme chaise dans laquelle on trimbalait les papes jusqu'au pape Pie XII. C'est un pape qui se sera voulu beaucoup plus proche, beaucoup plus simple. Son style est celui d'un homme simple. Alors après ça, il y a évidemment les grandes réformes et il y a les conclusions de ce Concile Vatican II, conclusions que lui-même ne verra pas puisqu'il est mort bien avant. L'abandon du latin à la messe pour privilégier la langue de chaque pays, le fait que personne ne doive être empêché ou contraint de pratiquer une religion, que l'Église catholique ne considère plus que les juifs soient responsables de la mort de Jésus, etc., etc. Tout ça arrivera dans les conclusions finales, mais bien après la mort du pape. Il faut vous dire qu'il est très malade. Il était déjà assez fatigué au moment même de son élection en 1958, mais à partir de la fin de l'été 1962, on voit se développer les symptômes de cette maladie qui va l'emporter, qui au départ est un cancer de l'estomac et qui va très vite affecter le quotidien du Vatican et la vie du pape au jour le jour. Jean XXIII ressent de fortes douleurs. Il doit s'aliter du 26 novembre au 2 décembre de cette année 1962. Alors, il lutte néanmoins contre la maladie et il va s'en remettre dans un premier temps. Il apparaît certes amaigri et marqué, mais il continue à assumer l'ensemble des charges pontificales. Ces dernières sorties ont lieu en mars 1963 pour la béatification d'un prêtre de Bergame, sa paroisse, hein, Luigi Maria Palazzolo, qui est le fondateur des Sœurs des Pauvres. Il se rend donc dans son village natal. Et puis, au cours de la Semaine Sainte 1963, alors là, le monde entier découvre que le pape est vraiment très malade. Lorsqu'il se rend à Saint-Pierre, tout le monde est sidéré de constater à quel point il est amaigri, il est fatigué. Il va encore rendre visite au président de la République italienne, au Quirinal, le lendemain de Pâques. Mais le 15 mai, il descend pour la dernière fois à Saint-Pierre. C'est la dernière audience publique. Le 17, il célèbre sa dernière messe. Et le 19, les douleurs devenant vraiment intolérable, il ne bougera plus de ses appartements. Il reçoit encore le cardinal Wyszyński, qui est le primat de Pologne. Ce jour est aussi la dernière page écrite de son journal, nous dit Hésiobolis. Le pape Jean sait que désormais il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Et de fait, il mourra le lundi de Pentecôte, le 3 juin 1963. Le 26 mai, il n'avait même pas pu se rendre jusqu'à sa fenêtre pour bénir la foule sur la place Saint-Pierre. On n'imagine plus aujourd'hui ce qu'a pu être l'émotion planétaire au moment de la mort de ce pape qui était tellement aimé partout pour sa bonté, même hors de l'Église catholique. Jean XXIII est considéré comme une sorte de symbole d'ouverture au monde moderne. Il ne faut pas oublier qu'on est au début de ces années 1960 où tout va se transformer. Le Time Magazine lui consacre sa couverture de janvier 1963 et le désigne comme homme de l'année car, dit l'éditorialiste, il a donné au monde ce que la diplomatie et la science étaient incapables de donner, le sens unique d'une grande famille humaine. Le petit-neveu de Jean XXIII, Marco Roncalli, dira « Il avait besoin d'être près des gens, il se sentait un peu comme prisonnier au Vatican. » Eh bien, il est libéré de sa prison, d'une certaine manière, le pape Jean XXIII. Va lui succéder bientôt le pape Paul VI, à qui appartiendra de mener à son terme ce 21e concile de l'histoire de l'Église. Paul VI sera finalement le pape qui conclura Vatican II. Bonjour Alexandre Adler, en votre compagnie dans un instant, c'est un autre visage d'Angelo Roncalli que nous allons découvrir et surtout un épisode injustement méconnu de son existence.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire du pape Jean XXIII, avec vous Franck Ferrand et votre invité Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales, auteur d'une affaire de famille Jean XXIII, les Juifs et les Chrétiens aux éditions du Cerf.
C'est un peu un prophète que je reçois en vous, Alexandre Adler, aujourd'hui, puisque vous étiez tout petit, vous aviez 8 ans au moment de l'élection de Roncalli au Saint-Siège, il devient donc le pape Jean XXIII, et vous aviez prédit l'événement.
Je pense que la prophétie, malgré tout, ça va au-delà. Les prophètes prédisaient, d'ailleurs, parfois ils se trompaient. Hein, mais...
C'est une prédiction d'enfant, mais... la vérité sort de la bouche des enfants.
Voilà, alors ce qui est vrai, en revanche, parce que c'est un souvenir qui est resté aigu dans ma mémoire, c'est que effectivement dans France Soir, à l'époque vraiment le quotidien de Lazareff avec les gros titres et tout, il y avait une grande page sur les papabilis. C'était voilà. Juste après la mort de Pie XII. Et puis je vois la photo de Jean XXIII avec cette bonne tête que je ne le connaissais pas, mais ma grand-mère m'en avait tellement parlé que c'était comme si je le connaissais.
Alors, on va venir dans un instant aux raisons de cette connaissance.
Je dis, mais mes parents, voilà, il va être pape. Quand mes parents, évidemment, avaient un doute rationnel, ils disaient « Non, non, tu sais, c'est pas comme ça ». Et puis ça a été comme ça. Alors évidemment, sentiment de toute puissance de l'enfant de 8 ans d'avoir prédit l'élection du pape. Mais en tout cas, c'était pour moi, bien entendu pour ma mère et surtout pour ma grand-mère, quelque chose d'extrêmement important parce que ma grand-mère a eu, je peux dire, sa vie entièrement bouleversée.
Alors voilà.
Par ce rapport qu'elle a tissé avec le futur Jean XXIII, Roncalli, qui était délégué apostolique, il n'était pas nonce.
Alors, il faut.
En Turquie.
Voilà. Avant d'entrer dans cette relation entre votre grand-mère et Angelo Roncalli, il faut expliquer la position de votre grand-mère en Turquie à l'époque. C'est très intéressant.
Oh, oui, voilà. Pour comprendre la position de ma grand-mère, il faut comprendre la position de mon grand-père.
Mais oui, voilà.
Mon grand-père est mort en 1934, ou même fin 1933, brutalement. Et donc, ma grand-mère est devenue veuve. Elle avait beaucoup de loisirs d'une certaine manière. Mais elle a quand même hérité un petit peu des relations du carnet d'adresse, comme on dit aujourd'hui, de mon grand-père. Or, mon grand-père a été officiellement, pendant toute la Première Guerre mondiale, et comme il était un ingénieur du chemin de fer de Bagdad, il parlait parfaitement le turc, il a donc accompagné la mission militaire allemande dans toutes ses vicissitudes de cette guerre. Et par la suite, il a déjà connu...
Il faut dire qu'il y avait des liens très importants entre l'Empire ottoman
Quasiment, je n'oserais pas dire pour mes amis turcs, c'était une semi-colonie.
Presque, oui.
Mais enfin, l'armée était commandée.
Presque un protectorat, disons.
Voilà, un protectorat un peu moins que l'IOTE, mais un peu... Voilà.
Dans cet esprit.
Et alors donc, Liman von Sanders, qui était le chef de la mission militaire, était en fait le commandant en chef de l'armée turque, avec évidemment un état-major turc en dessous de lui. Et puis, dans tous les domaines, notamment ce chemin de fer de Bagdad, réalisé par l'Allemagne, c'était l'ambition allemande qui s'était exprimée dans l'Empire ottoman. Donc, Première Guerre mondiale, c'était la grande amitié. Mustafa Kemal, qui lui n'était pas favorable à l'alliance allemande, a quand même reçu la croix de fer dans une espèce d'enthousiasme du Kaiser, parce qu'il n'avait jamais imaginé que les Turcs pourraient vaincre les Anglais et les Français aux Dardanelles. Et d'ailleurs, c'est dans la foulée que mon grand-père...
Votre grand-père,
aussi,
David Boer, connaît Mustafa Kemal.
Et ils ont se connu aux Dardanelles, bien entendu, quand il était interprète militaire. Il a rencontré de nouveau, pour la dernière fois sous l'uniforme, en 1918, à Alep, dans la grande débâcle. Et puis, quand Mustafa Kemal est devenu Kemal Atatürk, il avait son accès à lui. C'est-à-dire qu'il pouvait le voir, le demander un rendez-vous, être reçu. Il n'en abusait pas. Mais enfin, beaucoup de généraux turcs le connaissaient, l'appréciaient comme... un ami. Et donc, ceci a facilité certaines choses, notamment avec le successeur de Mustafa Kemal, Ismet İnönü.
Quelle était la place des Juifs dans cette Turquie de l'époque, qui sortait de l'Empire ottoman, en vérité ?
Elle était variable, mais enfin, dans l'ensemble, elle était bonne. La tradition instaurée par Soliman le Magnifique était de tolérer les Juifs et même d'utiliser leur savoir-faire.
Oui, bien sûr. Hein.
Salonique était une ville à majorité juive, c'était la ville natale de Mustafa Kemal. Et puis, il y avait aussi récemment des juifs ashkénazes venus pour les uns de Russie et puis un certain nombre dont mon grand-père d'Allemagne et qui étaient au fond des coloniaux. C'est-à-dire qu'ils avaient un statut plus élevé que les sujets turcs qui étaient quand même plus ou moins soumis parfois aux caprices de l'administration ou à son despotisme naturel. Là non. Et donc c'était un peu des privilégiés. Mais en général, les Turcs étaient exempts de tout antisémitisme. Et en général, ils avaient une bonne opinion de la minorité juive qui, à la différence des Grecs et des Arméniens, ne s'était pas insurgée contre le pouvoir ottoman, faute d'ailleurs d'avoir des protecteurs en dehors des frontières comme l'étaient les Russes.
Évidemment, cette attitude n'était pas celle du nouveau régime qui, en 1933, s'installe à Berlin. Votre grand-père, David Bauer, devant l'arrivée de Hitler au pouvoir, est obligé de régler ses affaires à Berlin, en fait.
Voilà, hein, il l'a fait rapidement dans le chagrin. Et évidemment, je pense que ça l'a tué, puisqu'il est rentré à Paris de Berlin vers la Noël. Il a attrapé une pleurésie à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il en est mort. Et donc, en fait, moi je pense qu'il est mort du chagrin que lui inspirait l'effondrement de cette Allemagne, avec laquelle à laquelle il avait passionnément cru, comme tous les juifs allemands de sa génération, et qui s'était effondrée sous lui.
Et dès la mort de votre grand-père, on voit votre grand-mère s'intéresser au sort de tous les juifs qui vont tomber sous la botte du nazisme.
Ben, d'autant
en fait,
plus que la communauté juive d'Istanbul a été révolutionnée par l'arrivée de dizaines, voire de centaines de juifs allemands ou autrichiens, généralement de formation intellectuelle, qui n'avaient pas trouvé place dans les universités occidentales, où la porte leur était souvent trop fermée. Vous savez qu'Einstein n'a pas été élu au Collège de France, par exemple. C'est pour ça qu'il est allé à Princeton. Bon, mais là, les Turcs, dans la continuité justement de cette politique de Soliman le Magnifique, ont largement ouvert les portes de leur université à des universitaires allemands. Et donc, en fait, Istanbul était devenue une ville allemande sur le plan culturel, et même, je dirais, une ville weimarienne, avec un certain nombre de gens. Dont
c'est
le
là
nom...
que l'esprit de Weimar était venu se réfugier sur les bords du Bosphore.
Mais
en fait,
parfaitement, hein, vous aviez dans un périmètre assez faible des gens qui ont laissé un nom dans les lettres à l'allemande, la philosophie allemande, l'économie même. Et bon, ceci a créé un micro-milieu.
Or,
et mes grands-parents, dans la mesure où ils étaient là une génération auparavant, les ont acclimatés. Ils les recevaient, ils formaient, et bien entendu...
Ils leur ont donné les clés de la ville, d'une certaine manière.
Et eux leur ont donné les clés de l'antisémitisme hitlérien, dont on ne mesurait absolument pas la nocivité. Et je pense que c'est ce qui a alerté ma grand-mère un peu avant les autres. Dès 1933-34, elle a compris que ce qui se passait n'était pas un épisode passager, comme beaucoup le disaient, mais quelque chose d'extrêmement grave. Et comme elle était engagée dans des associations humanitaires juives, elle s'est intéressée déjà au recueil d'abord de tous les réfugiés qui venaient librement, puisque les frontières étaient ouvertes, on les encourageait même à partir. Puis ensuite, eh bien, la guerre est venue, et là, il s'agissait d'autre chose.
Alors, les hasards de l'histoire font qu'en 1935, arrive justement à Istanbul un certain Angelo Roncalli.
Alors, Angelo Roncalli, c'était un homme, déjà, qui sortait beaucoup de l'ordinaire. Ma grand-mère m'a raconté...
J'ai essayé de le démontrer tout à l'heure. Hein.
Oui, absolument. Mais bon, c'est-à-dire que ma grand-mère, comme elle me l'a dit... Il lui avait expliqué un jour que la parole évangélique qui l'avait le plus marqué, c'était rusé comme un serpent et doux comme une colombe. Il était exactement l'un et l'autre. Alors c'était un paysan des Alpes bergamasques avec une famille pauvre qui avait vraiment bénéficié de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascenseur social, mais ecclésiastique. C'est-à-dire que dans une Italie qui n'a pas la France de Jules Ferry, c'est l'Église qui souvent prenait en main des jeunes gens, des jeunes enfants même doués, et les poussait, ils en faisaient des prêtres. Alors Roncalli, en fait, assez en désaccord avec la hiérarchie épiscopale italienne...
Il est délégué apostolique, hein, c'est son titre.
Voilà, a été poussé par des gens très intelligents vers la diplomatie vaticane, pensant qu'il aurait moins de heurts. Et là, cet homme qui ne connaissait pas les langues étrangères, sauf sans doute le français et bien sûr le latin, s'est révélé un diplomate exceptionnel. Elle a effectivement été envoyée en Bulgarie, qui était un petit poste. Et l'église orthodoxe bulgare étant dominante, il ne pouvait même pas être nonce. Et là, il a résolu en un tour de main une histoire qui aurait pu s'infecter, puisqu'en fait, le roi de Bulgarie, Boris, avait épousé une princesse italienne. Le pape avait accepté qu'il y ait un second mariage à Sofia orthodoxe, mais enfin, il s'était engagé à élever les enfants dans le catholicisme. Et il avait célébré un premier mariage catholique en Italie. Arrivant à Sofia, comme tous les grands hommes, il n'a pas pensé honorer ses engagements. Le pape était furieux Et Roncalli était chargé de lui dire que maintenant, c'était pas acceptable.
De faire les remontrances officielles.
Or, il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a trouvé une solution de compromis. Et surtout, à cette occasion, il a lié une grande amitié avec le patriarche orthodoxe, d'où sont sorties des mesures libérales en faveur de la petite minorité uniate bulgare, qui jusque-là était rassemblée autour de la petite ville de Plovdiv et considérée comme une minorité qu'on montrait du doigt. Eh bien, c'est là que Jean XXIII, le futur Jean XXIII, a fait l'expérience de l'œcuménisme et est nommé de Bulgarie en Turquie, qui était un poste plus important. Il a réussi l'exploit de te faire autoriser par l'État turc, qui était laïc, qui était très chauvin, il faut bien le dire, qu'il autorise la collecte en faveur des Grecs en 1941, quand, après l'invasion allemande, la Grèce a connu littéralement la famine. Et donc, dans toutes les églises de Turquie, surtout d'Istanbul, on a collecté pour les Grecs grâce à Jean XXIII. Et cela, ce sont des gestes qui montrent une intelligence diplomatique exceptionnelle, puisque bon, ces Grecs affamés étaient tous orthodoxes, et les églises qui ont collecté, outre les églises catholiques, c'était les églises orthodoxes, c'était les premiers linéaments de ce qui allait devenir l'œcuménisme.
Alors dans un instant, avec vous Alexandre Adler, nous en venons à la partie centrale de votre ouvrage, comment Jean XXIII, avec votre grand-mère, avec un certain nombre d'autres, ont aidé au sauvetage des Juifs en Turquie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du pape Jean XXIII, avec votre invité Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales, auteur d'une affaire de famille, Jean XXIII, les Juifs et les chrétiens, aux éditions du Cerf.
Une affaire de famille, Jean XXIII, les Juifs et les chrétiens, c'est le nouvel ouvrage d'Alexandre Adler aux éditions du Cerf. Alors, ce qui est très extraordinaire, Alexandre Adler, c'est que vous, qui d'habitude êtes l'analyste qui essayait de prendre le plus grand recul, là vous nous racontez, effectivement, comme l'indique votre titre, une véritable affaire de famille. Car avec votre grand-mère, celui qui allait devenir Jean XXIII, donc Angelo Roncalli, qui est donc le délégué apostolique, délégué diplomatique du Vatican en Turquie, va aider au sauvetage de Juifs. Et vous me disiez pendant l'interruption que jamais personne n'avait tant fait dans la hiérarchie catholique.
Je ne dis pas ça de manière polémique parce qu'il n'était pas facile de faire. Dans l'Europe occupée, on a eu des personnages extraordinaires comme le cardinal Saliège, qui a été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle au titre de son attitude face aux persécutions des Allemands et de Vichy. Mais cela dit, personne, je pèse mes mots, n'a fait autant et de manière aussi continue et aussi passionnée qu'Angelo Roncalli pour sauver des enfants juifs, des adolescents juifs, des adultes. Et personne, je crois, n'avait pris conscience à ce degré de l'horreur que représentait le projet hitlérien. Je ne dis pas du tout ça pour mettre en accusation Pie XII qui, sur ce point, contrairement aux accusations qu'on lit ici ou là, a tout fait pour l'aider et ne lui a jamais mis le moindre obstacle entre les mains. Je ne dis pas ça pour pointer d'un doigt accusateur une église catholique qui, dans l'ensemble, est au moins resté fidèle à ses maximes de charité et qui a ouvert ses portes aux et caché des enfants, même en Pologne.
Mais Angelo Roncalli, lui, est allé plus loin.
Il est allé plus loin, exactement. C'est-à-dire qu'il est allé plus loin, d'abord, dans l'ampleur de son engagement. Pratiquement, c'était devenu le seul. Et puis, ensuite, il est allé plus loin en ce sens que cette expérience terrible l'a fait réfléchir en profondeur au rapport des chrétiens et des juifs, comme il avait réfléchi à l'œcuménisme auparavant.
Ça aura des conséquences très importantes. L'urgence, écrivez-vous dans votre ouvrage, était à ce que l'Europe avait été transformée en terrain de chasse avec les Juifs pour premier gibier. Angelo Roncalli le savait, mais il devait aussi le faire savoir. C'est le deuxième aspect de ce rôle qu'il a eu dans la Turquie de l'époque.
Et là, j'ai appris dans la petite enquête que j'ai faite qu'une phrase qui avait beaucoup frappé ma grand-mère avait été mal interprétée par elle dans le contexte de l'après-guerre. C'est-à-dire que lorsqu'elle l'a remercié avec une grande émotion à un moment où il a quitté Istanbul pour Paris d'ailleurs, et il lui a dit « Ah, chère madame, j'aurais tellement voulu faire plus, mais j'ai eu les mains liées » et comme était italien, il accompagnait la parole du geste. Ça avait énormément impressionné ma grand-mère qui a pensé que les mains qu'il avait liées étaient peut-être au-dessus dans sa hiérarchie. Non, ce que voulait dire Jean XXIII, et ça je le sais, c'est que ce qui lui avait lié les mains, c'est l'inertie de la communauté internationale devant le génocide dont elle était informée et qui n'a pas eu à ce moment-là, même si le Vatican, lui, était peut-être plus ouvert à une démarche publique, la volonté d'aider comme il aurait dû le faire. Il a eu beaucoup à combattre l'influence notamment des Britanniques en Turquie.
C'est quand même un énorme paradoxe que vous soulignez là. C'est-à-dire que ce sont des autorités civiles et militaires britanniques qui retardent.
Ça, on le connaît parce qu'il y a eu, par exemple, ils étaient en désaccord avec la façon dont les Turcs avaient ouvert leur territoire et permis à des réfugiés de repartir ensuite vers la Palestine. Voyez la stabilité du mandat palestinien avant tout. Ils ne voulaient pas provoquer la population arabe, mais donc ils étaient prêts à tirer un trait purement et simplement sur ces malheureux. Et cela, ils l'ont fait très ouvertement. Il y a même des dépêches diplomatiques aujourd'hui dans les archives qui montrent comment le consul général à Istanbul se réjouit lorsqu'un bateau, le Struma, chargé de réfugiés, avait coulé en mer Noire en disant « voilà un problème que nous n'aurons plus ». Eh bien ça, c'est le problème que Jean XXIII s'ingéniait à leur faire tous les jours, notamment en visitant, grâce à ma grand-mère, les autorités turques et en faisant pression pour qu'elles ne cèdent surtout pas, qu'elles gardent leurs portes ouvertes. Par ailleurs, il y avait beaucoup de Turcs qui étaient d'accord avec cette politique, mais il fallait encore la mettre en œuvre.
Alors comme toujours avec vous, Alexandre Adler, la géopolitique et la géostratégie ne sont jamais loin. Votre ouvrage est fourmillant de pistes de ce point de vue. J'aimerais qu'on en vienne assez vite maintenant aux leçons que Roncalli aura tiré de tout ça et qu'il a ensuite mis en application lorsqu'il est devenu pape. Avant ça, d'un mot simplement, il faut souligner, comme vous le faites dans votre livre, le caractère très concret de cette action pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail que font votre grand-mère,
le délégué de l'agence juive, qui est le grand-oncle d'Alain Minc. Voilà comment le monde est petit.
Chaim Barlas,
qui là, ma grand-mère comme Chaim Barlas ont été honorés par l'État d'Israël. Jean XXIII ne l'a jamais été au même degré.
Et pourquoi, d'après vous ?
Par fermeture, par maladresse, aussi par peut-être volonté de ne pas le mouiller trop avec la cause israélienne, alors que le problème de la présence des chrétiens dans le monde arabe restait dominante. Jean XXIII n'a pas reconnu l'État d'Israël, comme son professeur Pie XII et son successeur Paul VI ne l'avaient pas fait non plus, et ceci essentiellement par préoccupation du statut des chrétiens dans le monde arabe. Et ça, bon, je pense qu'Israël avait l'intention aussi de ne pas le mettre en porte-à-faux. Cela dit, une chose est la diplomatie, une autre est quand même l'esprit de justice. Et le fait que, par exemple, Yad Vashem n'est pas organisé jusqu'à cette canonisation, parce qu'on parle, il y a eu une cérémonie à la Knesset tout de suite après, mais c'est un peu tard, je pense. Alors, bien entendu, je n'ai pas lu non plus suffisamment, et c'est pour ça que mon ami Jean-François Colosimo a eu l'idée de me faire faire ce livre, de témoignages abondants sur ce point qui est un très important dans sa vie.
D'où l'importance de votre ouvrage. Combien de réfugiés juifs ont été sauvés par ce trio, si je puis dire ?
Je n'ai pas les chiffres vraiment, parce que il y a des archives sans doute contradictoires, mais je pense que d'abord il y a eu tous les enfants juifs de Bulgarie. Les Bulgares en sont très fiers, ils disent nous sommes le Danemark de l'Europe. Ils ont réussi à évacuer, grâce au tsar Boris et au patriarche, tous les enfants et adolescents, dont Alexis Weissenberg, le grand pianiste qui a été trouver refuge chez ma grand-mère. Et puis, il y a eu beaucoup d'adolescents et de jeunes gens qui traversaient avec des passeurs de Hongrie, de la Yougoslavie, qui était beaucoup plus attenante à la Bulgarie, voire de Roumanie, et qui, en graissant des pattes ou en utilisant des incertitudes, se sont joints, disons, à ces convois. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a eu jusqu'à 50 000 à 60 000 personnes qui ont réussi à transiter par la Turquie à travers cette organisation qui devait tout au futur pape.
On n'aura pas le temps aujourd'hui, et je laisse à nos auditeurs le plaisir de le découvrir dans votre ouvrage, on n'aura pas le temps de revenir sur toute l'œuvre du diplomate Roncalli, bien avant qu'il ne soit élu sur le trône de Saint-Pierre. Simplement, il va au sein même de l'Église, quand il va diriger l'Église catholique, il va appliquer en quelque sorte les mêmes méthodes. Par quel mystère, demandez-vous, un gamin de la campagne de Bergame, né dans la dernière partie du XIXe siècle de simple métayer au sein d'une fratrie d'une dizaine d'enfants, en vient à changer la marche du monde en révolutionnant la plus grande institution religieuse par le nombre et par l'influence de l'histoire humaine? C'est vrai que c'est la grande question, en très peu de temps en plus, puisqu'il a moins de 5 ans.
C'est ce que disait le général de Gaulle. Il disait que c'était un des personnages les plus importants du siècle, parce que quand on change la prière d'un milliard d'hommes, on joue quand même sur des forces fondamentales. Oui, vous savez que c'est le pape lui-même se posait cette question que vous venez d'énoncer très clairement. Il disait « Je ne m'explique pas sans l'intervention de l'Esprit-Saint, cette destinée qui est la mienne ». Il n'a jamais d'ailleurs prôné intrigué pour des postes, était un homme qui était totalement au-dessus de cela, mais une sorte de providence l'a poussé et lui a permis de se développer. Le journal qu'il tenait, le journal d'une âme, le montre. Cet homme qui était de un bon, très très bon diplomate, un grand politique, était aussi un mystique, totalement à la recherche de la vérité, je dirais, et d'une nouvelle théologie qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle que Ratzinger aura développée, le pape Benoît XVI, à la fin de sa vie. Alors, un point quand même, dans cette évolution, parce qu'il y a le mystère au fond de l'histoire, mais il y a aussi des choses qui sont moins mystérieuses, l'Église de France a été le laboratoire dans lequel il a pensé Vatican II. Car, après la Turquie, le général de Gaulle a voulu qu'il devienne nonce apostolique. Il est resté pendant 10 ans, les années décisives, celles des prêtres ouvriers, celles de la grande démocratisation de l'Église de France. Jacques Maritain était par ailleurs, lui, ambassadeur de France au Vatican. Les deux hommes étaient très proches. Et c'est ainsi que, moi, je vois l'Église de France au premier plan de Vatican II, avec des personnages comme le père Congar, la Marie-Dominique Chenu chez les Dominicains, ou Teilhard de Chardin chez les Jésuites. Il y a eu une maturation proprement française de Vatican II, et on la doit elle aussi à Angelo Roncalli.
Et qu'on retrouve dans la théologie même de Jean XXIII, hein, qui est, nous dites-vous, irrémédiablement marquée par l'idée que l'histoire est un processus sans sujet. Évoquant sa destinée personnelle dans le journal de l'âme qu'il tient depuis son adolescence, Il insiste sur cet aspect des choses. Ce n'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu qui se manifeste. Vous parliez de Maritain, on est
dans la même philosophie.
L'acte de foi n'est pas un acte de volition, mais un acte d'abandon. C'est peut-être là que se trouve l'une des principales clés pour comprendre le rôle tellement efficace du reste du pape Jean XXIII.
Oui, le lâcher prise, laisser les événements se manifester, car ils sont en ultime analyse la volonté de Dieu. Et cette idée est assez différente, me semble-t-il, sans polémique aucune, du personnalisme qui a un peu dominé certaines analyses des intellectuels catholiques français de l'après-guerre. C'était en fait la forme catholique de l'existentialisme sartrien.
Exactement. Et comme par hasard, c'est la même époque.
C'est la même époque, c'est l'après-la-guerre, c'est l'idée de la résistance, c'est l'idée du sujet, c'est l'idée de Gérard, c'est le moment Gérard Philippe, on va dire. Oui. Eh bien, Jean XXIII n'était pas dans ces idées-là. Il était dans l'idée, au contraire, qu'il avait traversé un processus profond, très peu compréhensible, et dans lequel le lâcher prise, l'abandon de l'homme à la volonté de Dieu, est encore la meilleure des garanties.
Une approche de la théologie assez différente de celle de Jean-Paul II, qui a été canonisé le même jour que Jean XXIII, comme si l'Église voulait réconcilier deux courants d'une certaine manière, ou en faire la synthèse.
En même temps, il faut quand même le dire, ça a été beaucoup souligné, j'ai regardé dans les articles de la Croix ou en Italie, c'est vrai que Jean-Paul II a été le seul jeune évêque polonais à soutenir le Vatican II. Le cardinal Wyszyński, le primat, était totalement hostile. Et il y a chez Jean-Paul II cette dimension évidente, de même qu'il y a cette volonté de réconciliation avec le peuple juif qui est très frappante chez Jean-Paul II. Mais tout ceci au nom, évidemment, d'une philosophie de l'action qui est peut-être un peu différente de celle de Jean XXIII et de François, qui, je pense, est le vrai disciple aujourd'hui de Jean XXIII.
Il y aurait encore tant et tant à dire. Tout est dans votre livre, Alexandre Adler, Une affaire de famille, Jean XXIII, les Juifs et les Chrétiens. C'est aux éditions du Cerf.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Maya, qui souhaite connaître l'origine de l'expression « se mettre sur son 31 ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Maya. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et elle aimerait connaître l'origine de l'expression « se mettre sur son 31 ».
Alors, question difficile, réponse complexe, parce qu'en fait, il n'y a pas une explication, mais il y en a plusieurs de cette expression « se mettre sur son 31 ». Est-ce que ça vient de Prusse? Vous savez, dans les casernes prussiennes, les militaires recevaient tous les 31 du mois la visite de leur supérieur et ce jour-là, les soldats devaient donc se présenter en tenue absolument irréprochable. On nettoyait le casier de fond en comble, etc. D'où l'expression peut-être se mettre sur son 31. Ça pourrait aussi venir d'un jeu de cartes qu'on appelait le 31, justement. Un jeu de cartes qui était particulièrement prisé dans les casernes au 19e siècle. Le but, c'était d'atteindre à la fin de la partie le chiffre 31. On considérait donc à cette époque qu'il s'agissait, si vous voulez, du chiffre majeur. C'était le chiffre le plus beau, le plus prestigieux. Je vous avoue que je ne suis pas tellement convaincu en ce qui me concerne par cette explication. Il y en a une autre qui est beaucoup plus juste à mon avis. Les linguistes nous disent que cette expression « se mettre sur son 31 » serait une déformation du mot « trentin » en fait. Le trentin étant ce tissu brodé de 30 fois sans fil qui au Moyen-Âge était réservé aux plus riches. À cette époque, on disait « se mettre sur » pour désigner le fait de s'habiller. Donc les jours de fête, quand on voulait vraiment être très au mieux, eh bien, on se mettait sur son trentin. Et peu à peu, eh bien, l'expression aurait dégénéré et elle serait devenue se mettre sur son 31.